Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Aujourd'hui, nous revenons sur la deuxième épître de Pierre et commençons ainsi une deuxième série d'émissions consacrée à l'étude de cette lettre peu connue. Stéphane est de retour parmi nous pour nous aider à la comprendre et nous dire pourquoi il est important de saisir son message. Stéphane, bonjour.
Merci Yann, bonjour à tous. Lors de notre dernière série d'émissions, abordant cette deuxième lettre de Pierre, nous nous sommes penchés sur les 13 premiers versets du chapitre 1. Nous y avons alors puisé un enseignement solide, visant à encourager notre croissance spirituelle. Pierre a écrit aux chrétiens à un moment où de faux enseignants commençaient à s'infiltrer dans les églises. Le rôle de l'apôtre est d'avertir les chrétiens, les mettre en garde contre ces enseignants-là et les aider à les reconnaître. Mais dans un premier temps, il leur rappelle pourquoi l'enseignement qu'il a toujours apporté en tant qu'apôtre est digne de confiance. Avant d'en dire plus, nous allons céder la parole à notre lectrice et écouter la lecture au chapitre 1 des versets 14 à 21 de la deuxième lettre de Pierre.
Car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que, même après mon départ, vous vous rappeliez toujours ces choses. En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire, lorsque dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie ». Or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes, puisque nous étions avec lui sur la sainte montagne. De plus, nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement, et vous faites bien de lui accorder votre attention. Car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
Merci. Stéphane, nous apprenons d'abord que Pierre pense qu'il n'en a plus pour longtemps à vivre, car il écrit « Je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel ».
Oui, c'est vrai, Yann, ce détail souligne toute l'importance de sa lettre. Pierre approche la fin de sa vie sur terre et en même temps il s'inquiète pour les églises, car il sait que de faux enseignants les mettent en danger. En écrivant cette lettre, Pierre agit comme un vieux père de famille gravement malade sur son lit de mort, invitant tous les siens pour leur faire part de ses derniers conseils et directives. Pierre le dit lui-même, il va rappeler des vérités que les chrétiens ont déjà entendues maintes fois, mais dans un contexte où les églises sont menacées et où l'apôtre est sur le point de quitter ce monde, il devient d'autant plus important que ces vérités soient enracinées dans le cœur des croyants. Selon Pierre, il faut constamment rappeler les vérités bibliques et apostoliques. Il faut fidèlement s'accrocher à ces vérités au lieu de s'égarer en suivant les idées nouvelles et séductrices des nouveaux enseignants.
Et c'est une leçon qui est encore pertinente de nos jours, me semble-t-il.
C'est exact, Ian. Les temps n'ont pas vraiment changé. Il existe toujours de nombreux faux enseignants qui cherchent à influencer les églises et ils représentent un réel danger spirituel et moral. C'est pourquoi Pierre nous rappelle qu'il faut peser tout enseignement, même le mien, pour vérifier s'il est fidèle aux enseignements des prophètes et des apôtres. Autrement dit, il faut s'assurer qu'un enseignement n'est pas en contradiction avec la Bible.
Merci. Pierre explique-t-il quelles sont les vérités bibliques que les faux enseignants contredisent?
Oui, il donne effectivement un indice, car Pierre déclare « Nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance ». Et cela semble suggérer que les faux enseignants mettaient en doute la promesse du retour de Jésus-Christ, dans la gloire, pour juger le monde et délivrer pleinement son peuple. Le chapitre 3 confirme cette hypothèse, et nous étudierons ce thème lors d'une prochaine série. Nous pouvons toutefois affirmer dès maintenant que Pierre va défendre fermement cette certitude que Jésus reviendra un jour, de manière visible, dans la gloire et la puissance, en juge et libérateur. La méthode qu'il emploie pour défendre cette vérité peut s'appliquer à tout sujet de controverse. Des principes très importants se dégagent des versets lus. Il est nécessaire de les retenir et de les appliquer dans le contexte des controverses qui touchent l'Église à notre époque. Nous attarderons sur ces leçons pendant deux émissions.
D'accord, c'est bien. Par où voulez-vous commencer ?
Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le fait que Pierre s'appuie sur un épisode de sa vie, vécu avec Jésus-Christ, dont le récit se trouve dans trois des quatre évangiles. En l'occurrence, il s'agit de la transfiguration de Jésus-Christ.
De quoi s'agit-il ? Quelle est cette transfiguration ?
Eh bien, un jour, Jésus a pris avec lui trois de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Il est monté avec eux sur une montagne. Et là, Jésus a tout à coup subi un changement d'aspect. Pendant un moment, son visage est devenu plus rayonnant que le soleil et ses vêtements se sont transformés en un blanc éblouissant. On peut dire que Jésus était, pendant tout cet instant, revêtu de gloire et de puissance. Or, cet épisode de sa vie terrestre rappelle quelques prophéties de l'Ancien Testament concernant le personnage que Dieu allait envoyer à la fin des temps pour être juge, roi et sauveur. De plus, une voix tonitruante s'est fait entendre, la voix de Dieu. Il a annoncé « Voici mon Fils bien-aimé, il fait toute ma joie ». Ces paroles aussi évoquent quelques prophéties de l'Ancien Testament au sujet de celui qui viendra en juge et en sauveur pour marquer la transition entre cet âge présent et l'âge éternel. Les apôtres en ont conclu que Jésus est ce personnage promis par les prophètes, celui qui reviendra un jour en puissance et en gloire pour juger le monde et pour sauver les siens. Pierre a eu le privilège d'apercevoir de ses propres yeux la véritable gloire de Jésus-Christ. Il a eu le privilège d'entendre de ses propres oreilles la voix de Dieu. Il a été témoin de ces événements, et son témoignage s'accorde avec les récits et les promesses de l'Ancien Testament. Pour ces raisons, nous pouvons affirmer que le témoignage et l'enseignement de Pierre sont dignes de confiance. Nous pouvons être sûrs que Jésus reviendra en gloire et en puissance.
Merci. Que dire de plus sur ce texte que nous avons lu en début d'émission ?
Oui, je reviens sur le début du texte. Pierre affirme qu'en proclamant Jésus-Christ, il ne s'appuie pas sur des histoires inventées, mais sur des témoignages vrais. On ne sait pas pourquoi il a pensé qu'il était nécessaire d'affirmer cela. Peut-être d'autres personnes mettaient-elles ses propos en doute ? Probablement que les faux enseignants racontaient des histoires sorties de leur imagination, des histoires mensongères pour séduire les gens avec des nouveautés attirantes. Pierre veut rassurer ses lecteurs. Tout ce qu'il leur a enseigné trouve ses racines dans des faits historiques. Jésus a réellement existé, et tout ce que Pierre enseigne à son sujet est vrai. Il était un témoin direct parmi d'autres personnes de son enseignement, de ses miracles et ses prodiges, de sa mort ainsi que de sa résurrection. Puisque Pierre a vu et entendu toutes ces choses, son enseignement est absolument digne de confiance. En ceci, Pierre se distingue des autres, des faux enseignants. Les faux enseignants n'ont pas suivi Jésus. Ils ne l'ont même pas vu en chair et en os, ni entendu parler. Si donc ces personnes enseignent des propos qui sont en contradiction avec l'enseignement de Pierre ou des autres apôtres, elles ne connaissent pas Jésus. Au mieux, leur croyance erronée est le produit de leur propre imagination. Au pire, leurs mensonges sont délibérément conçus pour égarer et manipuler les gens.
Et quelles leçons devons-nous en retenir aujourd'hui ?
Notre foi en Jésus-Christ doit être solidement ancrée sur les écrits des apôtres, car leurs écrits sont absolument dignes de confiance. Les témoignages et les enseignements des apôtres qui ont été choisis par Jésus se trouvent dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Tous ces écrits sont fiables et dignes de confiance. Le rôle des pasteurs, des responsables d'église, des prêtres, de toute personne qui enseigne dans l'église, est d'aider les croyants à comprendre l'enseignement des apôtres. Leur mission est de rappeler et de transmettre les vérités que les apôtres nous ont données. Leur rôle n'est pas d'inventer des nouveautés. Leur rôle n'est pas de créer d'autres histoires. Si une personne qui enseigne cherche à faire croire aux autres des propos clairement en contradiction avec la Bible, elle est tombée dans l'erreur. Cela peut arriver, par inadvertance, de déclarer des choses qui sont fausses. Mais si une personne le fait délibérément, alors elle est mal intentionnée. Et si un enseignement prétend que les nouveautés qu'il annonce viennent de l'esprit, ou ont été reçues suite à un songe ou un rêve, alors cet enseignant marche en contradiction avec les écrits du Nouveau Testament, et il a tort. De même, si une personne prétend que les nouveautés qu'elle raconte s'appuient sur des miracles que Dieu lui accorde, ses propos sont clairement en contradiction avec ceux tenus par les apôtres. Une fois de plus, cette personne a tort. Tout au long de l'histoire, l'Église a reconnu que le Nouveau Testament est fiable et digne de confiance. Nous n'avons pas le droit d'ajouter ou d'inventer des histoires différentes au sujet de Jésus. Enseigner des nouveautés à son sujet revient à s'opposer à Dieu. Nous devons fonder notre connaissance de lui et notre foi en lui sur la base de l'enseignement des apôtres trouvé dans le Nouveau Testament. Nous devons adorer, aimer et servir le véritable Jésus, celui qu'on trouve dans les récits du Nouveau Testament. Nous ne devons pas adorer ou suivre un faux Jésus sorti d'une imagination égarée ou de raisonnements erronés.
Je crains qu'un peu partout dans le monde, de faux enseignants se sont infiltrés dans l'Église et ils y créent de la confusion et des troubles.
C'est malheureusement vrai, Yann. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre à l'Église d'Éphèse. Nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur.
Comment ne pas être ballotté comme des barques dans une tempête?
Eh bien, Paul répond à cette question dans le verset précédent. Les enseignants doivent demeurer fidèles à la Bible et être capables de l'expliquer clairement aux croyants. Et en tant que chrétiens, nous devons écouter les enseignements fidèles et non ceux qui apportent des messages remplis de mensonges. Ensuite, il faut prier pour que nous ayons la sagesse de discerner le vrai du faux, car parfois ce n'est pas facile. D'ailleurs, par la suite de cette série, les écrits de l'apôtre Pierre nous aideront à mieux connaître les faux enseignants, afin que nous puissions les éviter. Toutefois, la prochaine fois, nous parlerons davantage de l'Ancien Testament, pour affirmer que lui aussi est vrai et que la Bible entière est digne de confiance.
Merci Stéphane et à bientôt.
Merci Yann et au revoir à tous.
Sur ce, nous terminons notre émission. Et en souhaitant vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.